Alors, dans votre roman, la partie qui s'ajoute, qui sont ces deux chapitres intitulés Les embrasements et les coulées, on parle à ce moment-là, on entre à ce moment-là dans l'histoire que raconte ce jeune personnage qui a été enlevé, qui a été le témoin, la victime et l'acteur de ces enfants soldats. C'est très dur à lire. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque ce jeune homme est venu sous votre plume et que vous l'avez raconté?
Dans quel état d'esprit je ne sais pas si je peux vraiment décrire ça. Je ne sais pas si je peux décrire ça. J'ai créé ce personnage à un moment très très particulier. C'est après avoir vu un documentaire sur les enfants de la guerre, dans lequel il y avait le témoignage d'un adolescent qui pouvait tout à fait lui ressembler. Et je me suis posé beaucoup beaucoup de questions sur la manière dont on pouvait vivre après ça. Sur la manière même dont on traversait ces aventures-là. Et c'est comme ça que EPA a surgi. Pour moi, il existe. Il existe. Je ne le décris pas physiquement, véritablement, mais il a un visage dans mon esprit. C'est quelqu'un qui existe. Et je l'ai créé pour pouvoir approcher de plus près cette expérience que je ne peux pas connaître, n'ayant jamais moi-même été emmenée de cette manière, dans un conflit que je ne voulais pas faire. Donc c'est vraiment ce que je peux dire, même si c'est un peu nébuleux, un peu, on peut pas parler, je peux pas parler de mes personnages, de l'état d'esprit dans lequel je suis quand ils arrivent en moi, parce que c'est la partie de mon travail qui peut-être n'est pas totalement rationnel, quoi. Il y a quelque chose s'insinue en moi à un moment donné qui fait que quelqu'un prend corps sur la page. Ouais, je peux pas expliquer ça parce que je me l'explique pas à moi-même. Je le vis.
Parce que lorsqu'on lit votre livre, ce personnage a une telle densité et en même temps une telle fragilité. Il est tellement victime et en même temps responsable d'une certaine manière, mais sans être maître de son destin. Et lorsqu'il prend son destin en main, c'est pour essayer de sauver les autres enfants. Et puis surtout, c'est là le rôle d'Ayane pour lui donner la parole. Et c'est cela qui m'a inspiré cette question-là, de me dire comment progressivement le personnage prend forme, comment vous le construisez dans le roman.
Je ne le construis pas nécessairement en y ayant pensé aussi en détail que ça. Ce qui est certain, c'est que mes personnages et celui-là, comme les autres, sont aussi nourris d'une certaine perception que j'ai des choses. Je pense que dans ces histoires de bourreaux et de victimes, les choses sont toujours très très complexes. Je pense que ce n'est jamais aussi manichéen que ça. Je pense que même le bourreau est toujours une victime. Et c'est pour ça que dans le cas des pas, les choses sont tellement imbriquées. Il est tout à la fois, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, je crois. Pour des raisons différentes, hein. Il est un enfant arraché, mais il est quelqu'un qui va accepter de commettre des meurtres. Et que soient les raisons pour lesquelles il accepte, il le fera. Donc, pour les gens qui l'a tué, et pour nous qui le regardons faire, puisque en fait nous le voyons faire dans le roman, il est un bourreau. Ils n'ont pas à s'interroger sur ce qu'il a armé et conduit là chez eux. Donc je pense qu'en fait, ce qui arrive aux humains est toujours très, très, très compliqué. Et que si on comprend ça, on a très à cœur, quel que soit l'événement de l'histoire qu'on regarde, de ne surtout pas enfermer quiconque dans ni un statut ni de bourreau ni de victime, quoi. Et en disant ça, je m'adresse vraiment aux Africains qui ont très souvent la tentation de s'enfermer dans une posture victimaire qui enferme l'autre dans la position du bourreau éternel. Ce qui ne me semble pas être des positions tenables. Et je crois que dans la réalité de ce qui s'est passé, ça a toujours été plus compliqué que ça. Et donc, c'est simplement ça que ça veut dire. Ce sont des choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Et même si je n'y pense pas de manière aussi directe lorsque je construis mes personnages, je crois que le fait d'avoir mené ces réflexions en amont fait que je crée des personnages qui sont, comme nous, des êtres contrastés et complexes. Mes romans ne sont jamais, enfin j'espère, qu'ils ne sont pas bêtement manichéens et que les individus qui sont là sont toujours contrastés. Moi, je vois ces trois garçons qui s'occupent des enfants enlevés. Voilà, bon, ils sont bêtes et méchants, mais je pense qu'ils sont des victimes aussi. Je pense qu'il n'y a pas de violence faite à l'autre qui ne soit une violence profondément faite à soi-même. Ils ne sont peut-être pas des victimes immédiatement perceptibles comme telles, mais à terme, forcément, oui. Donc moi, je travaille, oui, toujours avec ces considérations présentes à l'esprit, et je pense que c'est ce qui transparaît dans ma manière de créer les personnes. Et puis, je connais personne qui soit totalement bon ou totalement méchant. Enfin, je connais pas ça. Donc, je pense que je décris ce que je connais, au fond.
Pour vous rassurer, votre roman est loin d'être manichéen. Au contraire, il explore vraiment toute la complexité humaine dans la relation victime-bourreau, mais aussi dans cette autre dimension, innocent et coupable. Mmh. Parce que vous décrivez très bien le processus où le coupable essaye d'associer à la culpabilité celui qui est innocent au départ, simplement parce que tout le monde finit par être compromis dans la même folie, que ce soit une folie meurtrière ou une folie destructrice.
Oui, mais ça c'est très très important à relever, parce que c'est comme ça que fonctionnent ces dictatures africaines. On se demande toujours, vu de l'extérieur, comment elles prospèrent et comment elles s'installent si durablement. Mais c'est parce qu'elles ont ce fonctionnement qui, au fond, est un fonctionnement mafieux. C'est que on associe toute une série de personnes aux crimes commis. On les associe au mal qui est fait de façon à ce que elles ne puissent pas s'opposer. Finalement, vous avez tous, à un moment donné, profité de ce système. Quelquefois à petite échelle, hein. Vous vous êtes laissé corrompre à un moment donné, vous avez accepté de fonctionner là-dedans, donc vous avez du mal, finalement, à être celui qui dira, qui désignera les coupables et qui dira, cessons de faire ça. Et ça marche très très bien dans un pays comme le Cameroun, où finalement tout le monde est mouillé dans tout, et où vous ne pouvez rien faire si vous rentrez pas dans la combine, en fait. Et voilà, et ça marche à différents niveaux, toutes sortes d'activités. Hein. Vous prenez l'enseignement, par exemple, vous avez trouvé là-dedans des corruptions dont vous pensiez pourtant qu'elles n'existaient que dans les secteurs bancaires. On est très surpris, mais voilà, c'est un fonctionnement un peu généralisé. Et donc, je l'ai appliqué ici à des exactions, mais en réalité, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de strates comme ça, de l'activité humaine dans nos pays, en particulier en Afrique centrale d'ailleurs, qui ont développé une espèce d'art comme ça de la corruption et du système mafieux.
C'est ce qui donne le vertige aussi, c'est qu'on se dit que même les innocents ou ceux qui voudraient échapper au système, il est impossible d'y échapper tellement c'est comme une glu qui enferme tout le monde. Alors, est-ce que c'est le lien que vous faites avec ceux dont on parlait au début, tous ces, la mémoire de ceux qui sont partis, qui ont disparu, qui manquent à l'Afrique pour pouvoir se reconstruire une certaine forme d'éthique pour éradiquer la corruption, pour lui permettre de vivre, finalement, de respirer?
Il manque certainement cette mémoire-là, qui est la mémoire d'une part de soi perdue, et puis il manque aussi une autre mémoire antérieure, peut-être à la traite, qui est la mémoire de soi libre, la mémoire de soi dans le monde où on n'était pas dominé, et où, voilà, comment vivions-nous, quel était ce monde, qui avons-nous créé. Je pense que, voilà, il manque ces deux mémoires pour recréer une perception de soi plus positive. Dans la mémoire de la traite, il y aura de l'inconfort à l'aborder, parce que il y aura des responsabilités à prendre, et il faudra le faire.
Vous dites aussi que l'oubli, que le pardon ne veut pas dire l'oubli.
Non.
Et que la mémoire ne veut pas, veut dire le pardon, mais que le pardon ne veut pas dire l'oubli.
Non, le pardon ne veut pas dire l'oubli, mais il faut arriver au pardon. Hein. Et quand il est question de pardon, c'est d'abord être capable de se pardonner même à soi-même, hein, d'avoir failli, d'avoir mal agi. Et je crois que c'est même ce pardon-là le plus difficile, de se pardonner à soi, d'avoir fait quelque chose qu'on estime abject. Mais si on ne se pardonne pas à soi, en général, on ne dépasse pas ça. Et une fois ce travail-là fait, enfin, de toute façon, peut-être même pas une fois, concomitamment, il faut retrouver la mémoire du monde dans lequel on avait créé des choses sans l'apport des autres, aussi minime soit-elle. Parce que c'est la mémoire de sa capacité à être. Vous avez tout à l'heure employé le mot proactif pour parler de ma démarche. C'est ce que j'espère vraiment, que nous soyons plutôt proactifs qu'autre chose et que nous retrouvions en nous ce qui est, comment dire, des possibilités équivalentes à celles des autres. Enfin, l'Africain est doté du même système cognitif. Hein. Je veux dire que n'importe quel autre humain, il serait bon qu'il s'en souvienne et qu'il trouve autour de lui, parce que ça existe, des éléments qui le valorisent un peu, des créations qui le valorisent. Peut-être que pour pouvoir bien les regarder, il faut aussi les regarder pas forcément avec le regard des autres. C'est ce que nous faisons trop parfois. Nous avons du mépris pour nos propres productions parce qu'aujourd'hui, nous les regardons avec un regard occidental. Et donc, c'est sans fin ce problème-là si on continue comme ça. Donc voilà, plus sérieusement, je pense
qu'il y a... C'est très sérieux ce que vous venez de dire. Oui, c'est l'acculturation totale qui fait qu'on se dénigre soi-même.
Oui, absolument. Donc je pense qu'il y a un travail que je pourrais appeler de réappropriation de soi à faire, qui est un travail presque de nature psychologique, hein, mais qui doit être fait dans les champs importants que sont l'histoire, la culture, avant de pouvoir s'aimer dans le politique et l'économique, parce que on a des personnes à qui on demande de prendre à bras le corps des choses qu'à mon avis, on ne peut pas affronter quand on est aussi chancelant sur ces fondations.
Leonora Miano, nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien parce qu'on pourrait parler, vous écouter en tout cas pendant des heures et des heures. Votre livre, en tout cas, je pense, appartient à cette réappropriation d'une culture, d'une littérature en tout cas, d'une littérature très, très dense, très forte et qui explore la complexité de la nature humaine et qui vraiment est un instrument de compréhension et d'empathie, peut-être de pardon, et qui insiste bien sur le travail de mémoire. Pour terminer, j'aimerais que vous me lisiez le dernier paragraphe de votre livre. Et j'avais confondu tout à l'heure Édouard Glissant et Aimé Césaire. Ouais, ouais. J'avais cité Aimé Césaire, mais c'est à Édouard Glissant que je pensais. Voulez-vous bien me lire le dernier paragraphe de votre livre qui est très très beau et qui montre aussi votre écriture?
À ceux qui se demandent en quoi cette question intéresse d'autres que les Africains et leur diaspora, nous rappelons simplement que toute violence faite à l'autre est une violence faite à soi-même, et comme le dit Édouard Glissant, ce gouffre est un non-dit des cultures mondiales. Toutes les humanités sont filles de ce gouffre-là. Tant qu'on ne l'aura pas établi dans la réalité de cet immense cimetière qu'est l'Atlantique, il manquera quelque chose à l'imaginaire des humanités. C'est donc l'humanité dans sa globalité qui a été offensée et qui le demeure, tant que le silence pèse. Les exhalaisons des transbordés sont l'air que nous respirons, nous tous, tant que nous ne leur avons pas fait droit.
Merci Leonora Miano pour ce très très beau roman dont je rappelle le titre « Les aubes écarlates ». C'est paru chez Plomb et c'est vraiment à lire toutes affaires cessantes.
Merci à vous de votre invitation.